tu es merveilleux, tu es un prophète. Et ils pleurent, ils sont tout à fait émus. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, à Jérusalem, ils voudront que Jésus soit le roi, parce que c'était un roi qui faisait des miracles, qui pouvait multiplier le pain, multiplier les poissons, comme c'était quelqu'un pour eux qui les intéressait. Et il nous a dit qu'ils ont cru, ils ont cru au Seigneur Jésus, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce que cela s'arrêtait sur le plan des sentiments, sur le plan du sensationnel. Ils acclamaient Jésus, ils l'ont acclamé à Jérusalem, et quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié, crucifie-le. Parce que leur cœur n'avait pas été changé. Et parfois, nous pouvons faire des expériences avec Dieu, nous pouvons avoir des exaucements, et nous sommes émerveillés, voilà. Mais le cœur n'est pas changé, le cœur n'est pas touché. Et il nous est dit là que Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. Il ne se fiait pas à eux. Et c'était triste. C'était triste. Par contre, il nous a dit, mais, au chapitre 3, mais, il y a un homme différent de tous ces gens-là. Un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, parce que, bon, il avait un peu peur pour sa réputation, etc. Bon, pour l'instant, il avait, voilà. Et il a dit ce qu'il a ressenti dans son cœur. « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est avec lui. » Pourquoi a-t-il dit cela à Jésus, cet homme? Pourquoi dit-il « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ?» Au départ, je me suis dit, cet homme est venu pour honorer Jésus, et il attendait de la part de Jésus des paroles de bénédiction. Peut-être il cherchait un encouragement. C'était un homme bien, hein, parce qu'il était honnête, il reconnaissait que Jésus était venu de Dieu. C'était un courageux, bien que là, ça soit la nuit. Mais quand même, il est allé voir Jésus, alors que les pharisiens ne voulaient pas qu'on aille voir Jésus. Il était humble, parce que il reconnaissait que malgré sa situation d'homme religieux, Jésus était supérieur. Donc, qu'attendait-il de Jésus? De la bénédiction, peut-être. Ou bien des conseils pour rentrer dans le royaume de Dieu, parce que malgré toute sa connaissance, il n'avait pas le témoignage intérieur qu'il était prêt à rentrer dans le royaume de Dieu. Il se sentait mal à l'aise. Mais, cette nuit, je me suis réveillé. Je dis pas que c'est Dieu qui m'a réveillé pour ça. Mais, j'ai compris. Je crois avoir compris pourquoi il est venu. Vraiment. Je crois qu'il est venu en disant, il a vu les miracles, il a vu tout ce qui s'était passé, il a dit, bon, ça c'est bien, c'est merveilleux. Bon, mais je retourne chez moi, tel que je suis. Moi, je n'ai rien reçu dans mon cœur. Et si vraiment Jésus est le Fils de Dieu, si vraiment Jésus est Dieu, moi, je ne veux pas me contenter de choses que je vois. Je veux recevoir quelque chose dans mon cœur, dans ma vie. Ouais, c'est comme quand on va au spectacle, ou on va au cinéma, bon, ou des choses comme ça. On est émerveillés et tout ça. Et puis quand on ressort, il n'y a plus rien. Et des fois, on va dans des réunions, on est content, on entend les choses, voilà, on est bien ensemble, c'est vrai. Mais quand on retourne à la maison, Seigneur, quand même, et moi, tu bénis les autres, toi. Ce matin, j'ai entendu des témoignages, j'ai vu des gens qui priaient de tout leur cœur, il s'est passé quelque chose pour eux, et moi, Seigneur. Et je suis convaincu, enfin, pour ma part, que dans le cœur de Nicodème, il y avait une réponse, une question, un malaise profond. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Bon, il n'était pas malade, il n'avait pas besoin d'argent, etc., mais il avait ce besoin spirituel, un cœur qui avait besoin d'être rempli. Et voilà que Jésus lui répond du tac au tac, lui dit du tac au tac, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. c'est quand même important de savoir cela, c'est que dès notre naissance, nous vivons dans la chair. Nous vivons selon Adam et Ève, dans la même chair. Et nous essayons par toutes sortes de moyens de nous améliorer. Nous essayons par toutes sortes de moyens d'embellir la chair, de devenir, mettons, généreux, d'avoir un meilleur caractère, de vouloir devenir patient. On essaie donc de prier davantage, de faire toutes sortes de choses pour embellir la chair. Mais la chair, c'est pas la peine de l'embellir, parce que de toute façon, la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Il faut, comme on disait dans le temps, peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais peut-être dans les dessins animés, il faut une transmutation, il faut quelque chose de des choses qui... Disons plutôt, il faut un changement. Il faut ne plus être né de la chair, mais naître de l'esprit. Parce que si nous essayons d'améliorer la chair, nous faisons fausse route. Et il faut savoir une chose, c'est que le meilleur des hommes ou des femmes, les meilleures personnes du monde, les plus généreuses, avec de meilleurs caractères qu'ils soient, n'héritent pas du royaume de Dieu s'ils ne passent pas par la nouvelle naissance. Alors bien sûr, c'est un mystère pour Nicodème. Bon, qu'on parle comme ça à un brigand, ok, à un voleur, à une personne pleine de haine, pleine de rancune, ça se comprend. Mais là, parler comme cela à quelqu'un de religieux, quelqu'un de respectable, Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et je pense que naître d'eau et d'esprit, ça faisait référence au baptême. Vous savez que Jean-Baptiste, quand il a annoncé le royaume de Dieu, il a parlé de la repentance et il baptisait les gens. Le baptême de Jean. Vous vous rappelez de ça? Donc les gens étaient mis dans l'eau. C'était pas le baptême au nom de Jésus parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais ils allaient dans l'eau. Pour eux, peut-être, ça parlait de purification. Mais l'eau parle aussi de la mort. Peut-être même ils se rendent pas compte vraiment de toute la signification de ce baptême. Mais pour eux, c'est un engagement. Dans l'eau, c'est la mort. Ils meurent. La chair meurt. Et quand ils ressortent, on sort en nouveauté de vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous prenons le baptême ne nous purifie pas. Il faut d'abord aller se laver peut-être à la maison pour ne pas sentir le jour du baptême. C'est pas une question de se laver pendant le baptême, non. Mais c'est une question d'engagement et de dire, voilà, aujourd'hui, je déchire la chair, tout ça reste au fond de l'eau, je ressors une nouvelle créature. Naître d'eau. Il faut combien de temps pour naître d'eau? Pas longtemps. Le temps de remplir le baptistère, de chauffer l'eau, de mettre un habit adéquat, et d'aller dans l'eau. Ça dure combien? Une demi-heure? Même pas. Ça, c'est l'engagement. Mais dès que cet engagement a été pris, aux yeux de Dieu, ça y est, on a changé de nature. On est passé de la chair à l'esprit. Seulement, vous rendez bien compte, pour que dans notre être intérieur, tout soit changé, il faut un certain temps. Et il faut justement naître d'eau, mais il faut naître d'esprit, et laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie, dans nos cœurs, afin qu'après le baptême, nous puissions atteindre cette vie de l'esprit. On ne peut pas l'atteindre en une fois. C'est vrai qu'il y a un changement. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, la repentance, on peut être libéré, on peut être pardonné, on a la paix, on a la joie. Mais ensuite, pour avoir la vie de l'esprit, vivre selon les impulsions de l'esprit, il faut un certain temps. Mais l'important, c'est le départ. Et bonne nouvelle, c'est que pour changer de vie et pour vivre selon l'esprit, Jésus a tout accompli. Et cela, nous allons le lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous aurons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts, voilà, par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à ses résurrections, sachant que notre vieil homme, notre homme, la chair, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Bon, c'est un peu compliqué des fois quand on dit ça comme ça. C'est vrai que Dieu, Jésus, a tout accompli pour que nous puissions mourir. Le baptême, c'est un engagement, mais le fait a été accompli par Jésus. Jésus est mort sur la croix, il est mort à notre place, et par la foi, nous pouvons l'accepter, nous pouvons prendre le fait que nous sommes morts avec lui. Le péché, c'est pas simplement des produits chimiques qui sont dans le cerveau, c'est pas simplement des réactions chimiques. Le péché, c'est quelque chose de plus fort que ça. C'est vraiment une puissance. Et il faut que ça soit mort. Hein, on peut changer parfois le caractère des gens par des piqûres, en faisant passer des choses dans le cerveau. Mais ça, c'est pas ça. Dieu veut qu'il est vraiment mort, et Jésus est mort, et nous sommes morts avec lui. Et dernièrement, j'ai réalisé une chose, pourtant ça fait quand même longtemps que je suis converti. Mais Jésus a été crucifié, et ses mains ont été clouées par des clous. Eh bien, nos mains ont été clouées. C'est-à-dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent selon la chair, les choses mauvaises, même les choses qui semblent bonnes, ne sont que des œuvres mortes, et tout ça a besoin d'être crucifié. Nos mains ont besoin d'être crucifiées, afin que par la nouvelle nature, nos mains soient des instruments pour Dieu. Vous comprenez? Nos pieds aussi ont été percés, ont été cloués à la croix, afin que nous ne marchions plus comme avant, là où nous voulions, en faisant ce que nous voulions, mais que nous soyons obéissants à Dieu. Vous allez me dire, mais alors, c'est pas la liberté. Mais obéir à Dieu par amour, c'est pas la liberté, ça? Si, c'est de la liberté. Autrefois, nous croyions être libres, mais en réalité, nous étions manipulés. Comme quelqu'un disait par le grand marionnettiste. Et nous faisions des choses que nous ne voulions pas faire. Nos pieds ont été crucifiés. La tête aussi est morte. Parce que il y a la couronne d'épines. Et nos pensées, nos mauvaises pensées, notre intelligence, toutes ces choses-là, nos sentiments, nos intuitions, toutes ces choses-là. Eh bien, tout ça, c'est mort à la croix. Et lorsque nous ressuscitons, eh bien, Dieu nous dit que Dieu, il renouvelle notre intelligence. Oh, Seigneur, mais j'étais quand même pas bête avant. J'ai fait la fac, j'ai fait ceci. Mais c'est pas cette intelligence-là. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, avec des hommes très intelligents, eh bien, le monde va de travers, n'est-ce pas? Oui ou non? En technique, c'est très fort. Mais pour le bonheur des gens, pour tout ça, on est nul. C'est la guerre et tout. S'ils étaient vraiment intelligents, ils n'auraient pas tout ça. Enfin, notre tête a besoin de, nous avons besoin de dire, Seigneur, toutes mes pensées, tout ça, je veux que ça change. Et Dieu le fera. Et il nous posera le casque, nous pouvons mettre dessus le casque du salut afin d'être protégés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, un soldat a pris une lance et il a percé le côté de Jésus. Et le sang a coulé. Le sang a coulé parce que l'épée a été jusqu'au cœur. Il a transpercé, c'était des épées, des lances très, 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 très épaisses, jusqu'au cœur de Jésus. Et il est mort, vraiment mort. Il y a aussi une chose que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, et c'était pour vous dire, pour donner du poids. C'est quand même un professeur dans une école publique, donc même c'est pas. Mais il m'a, on parlait ensemble. Il n'est pas peur. J'ai mes yeux qui pleurent, mais c'est la voiture, c'est pas le reste. Bon, enfin, je suis quand même ému de parler de ça parce que c'est important. L'eau a coulé. Ça, de son côté. Et longtemps, j'ai cru que l'eau qui coulait du corps de Jésus, c'était ce qu'on appelle l'eau de la vie qui se répand et qui peut nous altérer. Non, l'eau descend du trône de Dieu. Dans Ézéchiel, par exemple. Mais cette eau qui est sortie de Jésus représente, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça me convient bien, représente toutes les souillures de nos paroles, toutes les souillures des paroles qu'on a prononcées, toutes les souillures des paroles qu'on a entendues, qu'on a jetées sur nous. Il parlait de la langue, que la langue qui n'a pas été, bien sûr, purifiée, souille tout le corps dans Jacques. C'est un venin mortel. C'est le monde de l'iniquité. Et en nous, il y a parfois dans nos cœurs des torrents de destruction, il y a des torrents de pourriture, il y a des torrents de mauvais sentiments, des choses qui sont là et qui ne sortent pas. Mais à la mort de Jésus, tout ça s'est sorti. Et par l'action de l'Esprit de Dieu, tout ça peut sortir de nos cœurs et de nos vies. La nouvelle naissance prend une autre dimension quand on voit que Jésus est mort pour nous. Je parlais de le renouvellement de l'intelligence. Ça m'a fait penser à un ami que j'avais dans le temps. Il avait des responsabilités à l'église au travers des jeunes, mais ça n'allait pas du tout. Il n'avait pas d'initiative, ça n'allait pas, alors qu'on pensait qu'il avait des capacités. Il avait des capacités, mais je sais pas. Et un jour, il a quitté le Seigneur et il s'est mis dans un syndicat. Et là, ça a été le grand chef. Pour les choses du monde, c'était le grand chef, c'était le leader, mais pour les choses spirituelles, pourquoi? Parce que il vivait selon la chair, et la chair dans le domaine spirituel, ça n'amène à rien, ça n'amène que la mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. En tout cas, je ne veux pas que ce soit moi qui vis, je ne veux pas que ce soit la chair qui prenne le dessus, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça ne vient pas en quelques jours, ça ne vient pas en quelques semaines, je dirais ça vient en plusieurs années, bien sûr, cette progression. Mais il faut qu'il y ait une progression. Bien sûr qu'il y a la grâce de Dieu et que nous pouvons faire des bêtises, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs monumentales. Mais la grâce de Dieu est là pour nous pardonner et nous permettre de progresser. Alors, il y a deux attitudes devant ça. Ou bien, nous prenons ça avec décontraction. Pouf ! De toute façon, il n'y a pas ça à faire. La grâce de Dieu est là. Le dimanche matin, Seigneur, tu sais tout, tu pardonnes, on n'en parle plus, on repart. Voilà, je suis décontacté parce que la grâce de Dieu est là. Mais il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'en amuser. La grâce de Dieu est là pour nous relever de nos épreuves, de nos difficultés, de nos faiblesses, mais non pas de nos habitudes auxquels nous sommes, insensibles. Non, la grâce de Dieu est là pour nous faire du bien. Mais si nous sommes trop décontractés, Seigneur, ça se passe bien. Seigneur, ta grâce est là, ta grâce. Je dis pas ça en riant, je dis ça en pleurant. Par contre, si nous voulons rentrer dans le domaine de l'esprit en disant, Seigneur, maintenant je veux vraiment vivre selon ton esprit. Je veux être à l'écoute de ton esprit, avant de faire quelque chose. Non pas en faisant faire la vaisselle, ou bien faire, mais, vous montrez bien, avant certaines choses. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Tu viens de faire ça? Ah, non, j'ai pas la paix. Je crois, Seigneur, tu veux préférer que je fasse ça. On doit sentir ça. Ça vient petit à petit. Et si on y résiste plusieurs fois, après ça s'éteint. Mais si on est pris à écouter, alors ça se développe et on peut vivre selon l'esprit. Mais si on veut vivre selon l'esprit, alors là, on arrive à un problème difficile, c'est qu'on s'aperçoit que le péché, c'est pas simplement un petit péché. Hein, on dira, oh, bon, je vais trop vite en voiture, vous voyez, ça c'est pas bien, ou bien tiens, j'ai jeté un papier par la vitre de la rue, oh c'est pas bien. Vous voyez, on décide de s'améliorer comme ça. Mais quand on rentre dans le domaine du péché, quand on veut rentrer dans le domaine de l'esprit, on s'aperçoit que le péché, c'est une puissance. Et comme disait l'apôtre Paul, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. Et je ne m'en sors pas. Et il y a un temps de combat où on essaie de s'en sortir, puis après on essaie de se reposer en Dieu, puis après on essaie de s'en sortir. Il y a un moment difficile. Jusqu'au moment où, comme l'apôtre Paul, nous disons, grâce à Dieu, grâce à Jésus qui m'a délivré. Et en même temps, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le sang de Jésus, si nous sommes dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas de la décontraction. Ce n'est pas dire, je fais ce que je veux, et de toute façon, non. Ça, c'est moi qui s'est moqué de Dieu. Mais c'est de dire, Seigneur, oui, je, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Trois points de suspension. Ah, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation parce que Dieu est là, Jésus est là. Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Et du même qu'il est ressuscité, je veux ressusciter avec lui. Et un dernier passage qui complète un petit peu, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Et un peu plus loin, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Ok. J'appellerai ça, Dieu ne fait pas de rafistolage. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu veut pas qu'on mette des pièces neuves sur des vieilles pièces. Non. Il veut que nous nous dépouillons. Et là aussi, on a besoin de la croix de Jésus. Parce que Jésus s'est dépouillé. Il a été dépouillé de ses vêtements. Il a été dépouillé de sa tunique. Sa tunique n'a pas été déchirée. Pourquoi? Parce que il n'avait pas péché. Mais il s'est dépouillé de sa, de la nudité. Il s'est dépouillé afin que nous puissions aussi nous dépouiller, nous, de nos habits soi-disant respectables, de nos habits religieux, de notre zèle amer, de nos œuvres méritoires. Nous ne pouvons pas nous dépouiller nous-mêmes. Ça, c'est contre Dieu, c'est se moquer de Dieu, c'est mettre la croix de côté, dire Seigneur, tu as été dépouillé, eh bien maintenant, c'est toi, par ton esprit, qui me dépouille, qui arrache toutes ces choses, cette peau qui colle à ma peau. Et ensuite, Jésus nous revêt de vêtements de justice, de vêtements de louange, de vêtements de joie, de délivrance, de lumière, etc. C'est Jésus. C'est pas du rafistolage, c'est quelque chose de neuf. Comme le vase, qui a, on peut pas mettre le vin nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Si dans notre cœur, si nous restons dans la chair, bien sûr que non. Il faut qu'il y ait un brisement, comme dans les Gédéon, les cruches ont été brisées. Et si on est brisé, eh bien, Dieu aime les cœurs brisés et il refait un vase, des vases d'honneur utile au maître. Jésus a été brisé. Ses os n'ont pas été brisés. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas péché, donc. Mais il a été brisé dans son, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris par ce brisement que nous pouvons retrouver la vie. Il y a un psaume qui dit, c'est le psaume 451, je crois, qui dit que je puisse me réjouir et que les eaux que tu as brisées se réjouissent, n'est-ce pas? Il y a ça. Seigneur, j'accepte le brisement. C'est pas un écrasement, c'est pas une dépersonnalisation, bien sûr que non. Mais c'est briser des tensions intérieures, briser notre dureté, nos cours roides, nos cœurs de pierre, briser tout ça, afin que le Seigneur puisse, par son œuvre parfaite, faire donc des vases d'honneur remplis de sa joie, de son amour, de sa force. Voilà, ce matin, je voulais parler de cette nouvelle naissance. Ce n'est pas du rafistolage que Dieu veut, ce n'est pas une œuvre par nos propres forces, parce que c'est perdu d'avance et c'est même faire quelque chose contre Dieu, mais c'est mettre la croix de Jésus en premier. Jésus est mort, il est ressuscité, nous sommes ressuscités, il a été dépouillé, il a été brisé, afin que nous soyons revêtus et que nous soyons utiles au Seigneur. Que ce nom soit béni. Amen.